Grand I, de Hegel à Feuerbach. Cet ouvrage nous ramène à une époque qui, chronologiquement, est séparée de nous par l'espace d'une bonne génération, mais est devenue aussi étrangère à la génération actuelle en Allemagne que si elle était déjà éloignée de nous de tout un siècle. Et cependant, ce fut l'époque de la préparation de l'Allemagne à la Révolution de 1848, et tout ce qui s'est passé depuis chez nous n'est qu'une continuation de 1848, la simple exécution testamentaire de la Révolution. Tout comme en France au XVIIIe siècle, la Révolution philosophique au XIXe siècle précéda également en Allemagne la Révolution politique. Mais quelle différence entre les deux ! Les Français, en lutte ouverte contre toute la science officielle, contre l'Église, souvent même contre l'État, leurs ouvrages imprimés de l'autre côté de la frontière, en Hollande ou en Angleterre, et eux-mêmes étant assez souvent sur le point de faire un tour à la Bastille. Les Allemands, au contraire, des professeurs, des maîtres de la jeunesse nommés par l'État, leurs ouvrages reconnus comme manuels d'enseignement, et le système qui couronne tout le développement, celui de Hegel, élevé même en quelque sorte au rang de philosophie officielle de la royauté prussienne. Et la révolution devait se cacher derrière ses professeurs, derrière leurs phrases pédantesques et obscures, dans leurs périodes lourdes et ennuyeuses. Les hommes qui passèrent à l'époque pour les représentants de la révolution n'étaient-ils pas précisément les adversaires les plus acharnés de cette philosophie qui jetait le trouble dans les esprits? Mais ce que ne virent ni le gouvernement, ni les libéraux, un homme tout au moins le vit dès 1833. Il est vrai, il s'appelait Henri Heine. Prenons un exemple. Aucune proposition philosophique ne sait autant attirer la reconnaissance des gouvernements bornés et la colère des libéraux non moins bornés que la thèse fameuse de Hegel, ouvrez les guillemets, « Tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel », fermez les guillemets. N'était-ce pas, manifestement, la sanctification de tout ce qui existe ? La consécration philosophique du despotisme, de l'état policier, de la justice arbitraire, de la censure. Et c'est ainsi que l'interpréta Frédéric Guillaume III et ses sujets avec lui. Or, chez Hegel, tout ce qui existe n'est pas d'emblée réel. L'attribut de la réalité ne s'applique chez lui qu'à ce qui est en même temps nécessaire. Ouvrez les guillemets. La réalité s'avère dans son développement comme la nécessité. Fermez les guillemets. C'est qu'il ne considère pas non plus nécessairement comme réelle toute mesure gouvernementale quelconque. Hegel cite lui-même l'exemple, ouvrez les guillemets, d'une certaine institution fiscale. Fermez les guillemets. Mais ce qui est nécessaire se révèle en dernière instance également comme rationnel. Et, appliqué à l'État prussien d'alors, la thèse de Hegel ne signifie pas autre chose que « cet État est rationnel, conforme à la raison, dans la mesure où il est nécessaire. Et s'il nous paraît cependant mauvais, mais continue néanmoins d'exister, bien qu'il soit mauvais, c'est que la mauvaise qualité du gouvernement trouve sa justification et son explication dans la mauvaise qualité correspondante des sujets. Les Prussiens de l'époque avaient le gouvernement qu'ils méritaient. Or, la réalité n'est aucunement, d'après Hegel, un attribut s'appliquant pour toutes les circonstances et tous les temps à un état de choses sociales ou politiques données. Tout au contraire. La République romaine était réelle, mais l'Empire romain qui la supplanta l'était également. La monarchie française de 1789 était devenue si irréelle, c'est-à-dire si dénuée de toute nécessité, si irrationnelle, qu'elle dut être abolie par la Grande Révolution, dont Hegel parle toujours avec le plus grand enthousiasme. La monarchie était par conséquent ici l'irréel et la révolution le réel. Et ainsi, au cours du développement, tout ce qui était auparavant réel devient irréel, perd sa nécessité, son droit à l'existence, son caractère rationnel. À la réalité mourante se substitue une réalité nouvelle, viable, pacifique si l'ancien état de choses est assez raisonnable pour aller à la mort sans opposer de résistance, violente s'il s'oppose à cette nécessité. Et ainsi, la thèse de Hegel se transforme, par le jeu de la dialectique hegelienne elle-même, en son contraire. Tout ce qui est réel dans le domaine de l'histoire humaine devient, avec le temps, irrationnel, est donc déjà, par destination irrationnelle, est d'avance infecté d'irrationalité. Et tout ce qui est rationnel dans la tête des hommes est destiné à devenir réel, aussi contradictoire qu'il puisse être envers la réalité apparente du jour. La thèse de la rationalité de tout le réel se résout, selon toutes les règles de la dialectique hegelienne, en cet autre: tout ce qui existe mérite de mourir. Mais la véritable importance et le caractère révolutionnaire de la philosophie hegelienne, ouvrez la parenthèse, à laquelle nous devons nous restreindre ici, comme étant la conclusion de tout le mouvement depuis Kant, fermez la parenthèse, c'est précisément qu'elle mettait fin, une fois pour toutes, au caractère définitif de tous les résultats de la pensée et de l'activité humaine. La vérité qu'il s'agissait de reconnaître dans la philosophie n'était plus, chez Hegel, une collection de principes dogmatiques tout faits, qu'il ne reste plus, quand on les a découverts, qu'à apprendre par cœur. La vérité résidait désormais dans le processus de la connaissance même, dans le long développement historique de la science qui monte des degrés inférieurs au degré supérieur de la connaissance, mais sans arriver jamais, par la découverte d'une soi-disant vérité absolue, au point où elle ne peut plus avancer et où il ne lui reste plus rien d'autre à faire qu'à demeurer les bras croisés et à contempler la vérité absolue acquise. Et cela, dans le domaine de la philosophie, comme dans tous les autres domaines de la connaissance et de l'activité pratique. Pas plus que la connaissance, l'histoire ne peut trouver une fin parfaite dans un état idéal parfait de l'humanité. Une société parfaite, un état entre guillemets parfait, sont des choses qui ne peuvent exister que dans l'imagination. Tout au contraire, toutes les conditions historiques qui se sont succédées ne sont que des étapes transitoires dans le développement sans fin de la société humaine allant de l'inférieur au supérieur. Chaque étape est nécessaire et par conséquent justifiée pour l'époque et les conditions auxquelles elle doit son origine, mais elle devient caduque et injustifiée envers de nouvelles conditions supérieures qui se développe peu à peu dans son propre sein. Il lui faut faire place à une étape supérieure qui entre à son tour dans le cycle de la décadence et de la mort. De même que la bourgeoisie, au moyen de la grande industrie, de la concurrence et du marché mondial, dissout pratiquement toutes les vieilles institutions stables, vénérables, de même cette philosophie dialectique dissout toutes les notions de vérité absolue, définitive et de conditions humaines absolues qui y correspondent. Il n'y a rien de définitif, d'absolu, de sacré devant elle. Elle montre la caducité de toute chose et en toute chose, et rien n'existe pour elle que le processus ininterrompu du devenir et du transitoire, de l'ascension sans fin de l'inférieur au supérieur, dont elle n'est elle-même que le reflet dans le cerveau pensant. Elle a, il est vrai, également son côté conservateur. Elle reconnaît la justification de certaines étapes du développement de la connaissance et de la société pour leur époque et leurs conditions, mais seulement dans cette mesure. Le conservatisme de cette manière de voir est relatif. Son caractère révolutionnaire est absolu. Le seul absolu, d'ailleurs, qu'elle laisse prévaloir. Il n'est pas nécessaire de discuter ici la question de savoir si cette manière de voir est en accord complet avec l'état actuel des sciences naturelles qui font prévoir une fin possible à l'existence de la Terre elle-même, mais par contre, une fin assez certaine de son habitabilité et qui par conséquent attribue également à l'histoire de l'humanité non seulement un rameau ascendant, mais aussi un rameau descendant. Nous nous trouvons en tout cas encore relativement loin du tournant à partir duquel l'histoire de l'humanité ira en déclinant. Et nous ne pouvons pas exiger de la philosophie de Hegel qu'elle s'occupe d'un sujet qu'à son époque, les sciences naturelles n'avaient pas encore mis à l'ordre du jour. Mais ce qu'on peut dire en fait, c'est que le développement exposé plus haut ne se trouve pas avec cette netteté chez Hegel. C'est une conséquence nécessaire de sa méthode, mais qu'il n'a jamais tiré lui-même de façon aussi explicite. Et cela, pour cette simple raison qu'il était obligé de construire un système, et qu'un système de philosophie doit, selon les exigences traditionnelles, se conclure par une sorte quelconque de vérité absolue. Quelle que soit donc la force avec laquelle Hegel, notamment dans la logique, affirme que cette vérité éternelle n'est autre chose que le processus logique, c'est-à-dire le processus historique lui-même, il se voit cependant contraint de donner à ce processus une fin, précisément parce qu'il est obligé de faire aboutir son système à une fin quelconque. En logique, il peut faire à son tour de cette fin un début, en ce sens qu'ici, le point final, l'idée absolue, qui n'est d'ailleurs absolue que parce qu'il ne sait absolument rien nous en dire, ouvrez les guillemets, se dessaisit, fermez les guillemets, c'est-à-dire se transforme en la nature et revient plus tard à elle-même dans l'esprit, c'est-à-dire dans la pensée et dans l'histoire. Mais à la fin de la philosophie, un tel retour au point de départ n'est possible que par un seul moyen, notamment en supposant que la fin de l'histoire consiste en ceci que l'humanité prend connaissance de cette idée absolue et en déclarant que cette connaissance de l'idée absolue est atteinte dans la philosophie de Hegel. Mais par là, on proclame comme étant la vérité absolue tout le contenu dogmatique du système de Hegel, ce qui est en contradiction avec sa méthode dialectique, qui dissout tout ce qui est dogmatique. Par là, le côté révolutionnaire de la doctrine de Hegel est étouffé sous le foisonnement de son côté conservateur. Et ce qui est vrai de la connaissance philosophique l'est également de la pratique historique. L'humanité qui a réussi, en la personne de Hegel, à élaborer l'idée absolue, doit pouvoir également, dans la pratique, réussir à faire passer dans la réalité cette idée absolue. Les exigences politiques pratiques que pose l'idée absolue aux contemporains ne doivent, par conséquent, pas être exorbitantes. Et c'est ainsi que nous trouvons à la fin de la philosophie du droit, que l'idée absolue doit se réaliser dans cette monarchie représentative que Frédéric Guillaume III promettait en vain, avec tant d'obstination, à ses sujets, c'est-à-dire dans une domination des classes possédantes, indirecte, tempérée et modérée, adaptée aux conditions petites bourgeoises de l'Allemagne de l'époque, à propos de quoi on nous démontre encore, par la voie spéculative, la nécessité de la noblesse. Les nécessités internes du système suffisent par conséquent à elles seules à expliquer l'éclosion d'une conclusion politique très modérée, à l'aide d'une méthode de pensée profondément révolutionnaire. La forme spécifique de cette conclusion provient d'ailleurs du fait que Hegel était allemand et qu'il portait derrière la tête, tout comme son contemporain Goethe, un fragment de perruque à queue de Philistin. Goethe comme Hegel étaient, chacun dans son genre, des Jupiters olympiens. Mais ni l'un ni l'autre ne dépouillèrent complètement le Philistin allemand. Tout cela n'empêchait pas cependant le système de Hegel d'embrasser un domaine incomparablement plus vaste que n'importe quel système précédent et de développer dans ce domaine une richesse de pensée qui étonne encore aujourd'hui. Phénoménologie de l'esprit, ouvrez la parenthèse, que l'on pourrait appeler un parallèle de l'embryologie et de la paléontologie de l'esprit, un développement de la conscience individuelle à travers ses différentes phases, considéré comme une reproduction en raccourci des phases historiques parcourues par la conscience humaine, fermez la parenthèse, logique, philosophie de la nature, philosophie de l'esprit, cette dernière mise au point à son tour en ses différentes formes secondaires historiques, philosophie de l'histoire, du droit, de la religion, histoire de la philosophie, esthétique, etc. Dans tous ces différents domaines historiques, Hegel travaille à découvrir et à démontrer l'existence du fil du développement qui les relie. Et comme il n'était pas seulement un génie créateur, mais aussi un savant d'une érudition encyclopédique, ses travaux dans tous ces domaines font époque. Il est bien évident que, par suite des nécessités du « système », entre guillemets, il est assez souvent obligé d'avoir recours à ces constructions arbitraires à propos desquelles ses minuscules adversaires font jusqu'aujourd'hui un tapage aussi effroyable. Mais ces constructions ne sont que le cadre et l'échafaudage de son œuvre. Si l'on ne s'y arrête pas inutilement, si on pénètre plus profondément dans le puissant édifice, on y découvre des trésors innombrables qui conservent encore aujourd'hui toute leur valeur. Chez tous les philosophes, le système, entre guillemets, est précisément ce qui est périssable, justement parce qu'il est issu d'un besoin impérissable de l'esprit humain, le besoin de surmonter toutes les contradictions. Mais toutes ces contradictions, une fois pour toutes supprimées, nous arrivons à la prétendue vérité absolue. L'histoire mondiale est terminée, et cependant, il faut qu'elle continue, bien qu'il ne lui reste plus rien à faire. Donc, nouvelle contradiction impossible à résoudre. Dès que nous avons compris, et personne en définitive ne nous a mieux aidé à cette compréhension que Hegel lui-même, que la tâche ainsi posée à la philosophie n'est autre que celle-ci, à savoir qu'un philosophe particulier doit réaliser ce que peut faire seulement toute l'humanité dans son développement continu, dès que nous comprenons cela, c'en est fini de toute la philosophie au sens donné jusqu'ici à ce mot. On renonce dès lors à toute « vérité absolue » entre guillemets, impossible à obtenir par cette voie et pour chacun isolément, et à la place, on fait la chasse aux vérités relatives, accessibles par la voie des sciences positives, et de la synthèse de leurs résultats à l'aide de la pensée dialectique. C'est avec Hegel que se termine d'une façon générale la philosophie, d'une part, parce que dans son système, il en résume de la façon la plus grandiose tout le développement, et d'autre part, parce qu'il nous montre, quoique inconsciemment, le chemin qui mène, hors de ce labyrinthe des systèmes, à la véritable connaissance positive du monde. On comprend quel effet énorme ce système de Hegel ne pouvait manquer de provoquer dans l'atmosphère teintée de philosophie de l'Allemagne. Ce fut un triomphe qui dura plusieurs décades et ne s'arrêta nullement à la mort de Hegel. Au contraire, c'est précisément de 1830 à 1840 que l'hegélianisme, entre guillemets, régna le plus exclusivement, contaminant même plus ou moins ses adversaires. Ce fut précisément à ce moment que les conceptions de Hegel pénétrèrent le plus abondamment, sciemment ou non, dans les sciences les plus diverses, imprégnant également de leur ferment la littérature populaire et la presse quotidienne, d'où la conscience courante des « gens cultivés » entre guillemets tire sa nourriture intellectuelle. Mais cette victoire sur toute la ligne n'était que le prélude d'une lutte interne. Toute la doctrine de Hegel laissait, nous l'avons vu, une place considérable pour les conceptions pratiques de parti les plus différentes. Et, pratiquement, dans l'Allemagne théorique de l'époque, il y avait avant tout deux choses, la religion et la politique. Ce qui donnait la plus grande partie au système de Hegel pouvait être relativement conservateur dans ces deux domaines. Ce qui, par contre, considérait la méthode dialectique comme l'essentiel, pouvait, tant au point de vue religieux qu'au point de vue politique, appartenir à l'opposition la plus extrême. Hegel lui-même parut, malgré les éclats de colère révolutionnaire assez fréquents dans son œuvre, penché somme toute davantage du côté conservateur. Son système ne lui avait-il pas coûté plus de, ouvrez les guillemets, travail ardu de la pensée, fermez les guillemets, que sa méthode? Vers la fin de la décade 1830-1840, la scission dans l'école hegélienne se manifesta de plus en plus nettement. L'aile gauche, ce que l'on a appelé les « jeunes hegéliens », entre guillemets, abandonnèrent peu à peu, dans la lutte contre les orthodoxes piétistes et les réactionnaires féodaux, morceau par morceau, cette réserve philosophique distinguée à l'égard des questions de l'actualité quotidienne brûlante qui avait assuré jusque-là la tolérance et même la bienveillance de l'État à leur doctrine. Et, lorsqu'en 1840, la bigoterie orthodoxe et la réaction féodale absolutiste montèrent sur le trône avec Frédéric Guillaume IV, l'on ne put éviter de prendre ouvertement parti. On continua encore à mener la lutte à l'aide d'armes philosophiques, mais non plus cette fois pour des buts philosophiques abstraits. Il s'agissait carrément de la destruction de la religion traditionnelle et de l'État existant. Et si, dans les annales allemandes, les buts finaux pratiques apparaissaient encore revêtus en grande partie d'un manteau philosophique, l'école jeune hegélienne se révéla nettement, dans la Gazette rhénane de 1842, comme la philosophie de la bourgeoisie radicale montante. Et elle n'avait plus besoin du manteau philosophique que pour tromper la censure. Mais comme la politique était à cette époque un domaine très épineux, la lutte principale fut menée contre la religion. N'était-ce pas d'ailleurs, et notamment depuis 1840, indirectement aussi, une lutte politique? La première impulsion avait été donnée par Strauss dans « La vie de Jésus » 1835 entre parenthèses. Plus tard, Bruno Bauer s'opposa à la théorie qui était développée sur la formation des mythes évangéliques en démontrant qu'un grand nombre de récits évangéliques ont été fabriqués par leurs auteurs eux-mêmes. La lutte entre ces deux courants fut menée sous le manteau philosophique d'un conflit entre la conscience entre guillemets et la substance entre guillemets. La question de savoir si les histoires miraculeuses de l'Évangile étaient nées au sein de la communauté au moyen de la formation de mythes traditionnelles et inconscientes, ou si elles avaient été fabriquées par les évangélistes eux-mêmes, se transforma en la question de savoir si c'était la substance entre guillemets ou la conscience entre guillemets qui constituait la principale force motrice de l'histoire du monde. Et finalement, vint Stirner, le prophète de l'anarchisme actuel, Bakounine lui doit beaucoup, qui dépassa la conscience entre guillemets souveraine à l'aide de son unique entre guillemets souverain. Nous n'insisterons pas sur cet aspect du processus de décomposition de l'école hegélienne. Ce qui nous importe davantage, c'est ceci. La masse des jeunes hegéliens les plus résolus fut ramenée par les nécessités pratiques de leur lutte contre la religion positive au matérialisme anglo-français. Et ici, ils entrèrent en conflit avec leur système d'école. Tandis que le matérialisme considère la nature comme la seule réalité, elle n'est dans le système de Hegel que l'extériorisation entre guillemets de l'idée absolue, pour ainsi dire, une dégradation de l'idée. En tout état de cause, la pensée est son produit intellectuel, l'idée est ici l'élément primordial dont est issue la nature, laquelle n'existe d'une façon générale que par suite de la dégradation de l'idée. Et l'on se débattit tant bien que mal dans cette contradiction. C'est alors que parut l'essence du christianisme de Feuerbach. D'un seul coup, il réduisit en poussière la contradiction en replaçant carrément de nouveau le matérialisme sur le trône. La nature existe indépendamment de toute philosophie. Elle est la base sur laquelle nous autres hommes, nous-mêmes produits de la nature, avons grandi. En dehors de la nature et des hommes, il n'y a rien, et les êtres supérieurs créés par notre imagination religieuse ne sont que le reflet fantastique de notre être propre. L'enchantement était rompu. Le système, entre guillemets, était brisé et jeté au rancard. La contradiction n'existant que dans l'imagination résolue. Il faut avoir éprouvé soi-même l'action libératrice de ce livre pour s'en faire une idée. L'enthousiasme fut général. Nous fûmes tous, momentanément, des « Feuerbachiens » entre guillemets. On peut voir, en lisant la « Sainte Famille », avec quel enthousiasme Marx salua la nouvelle façon de voir, et à quel point, malgré toutes ses réserves critiques, il fut influencé par elle. Même les défauts du livre contribuèrent à son succès du moment. Le style littéraire, et même par endroits ampoulé dans lequel il était écrit, lui assura un grand public, étant, malgré tout, quelque chose de vivifiant après les longues années d'hégélianisme abstrait et abstru. On peut en dire autant de la divination exubérante de l'amour qui trouvait son excuse, sinon sa justification, face à la souveraineté de la raison pure, entre guillemets, devenue insupportable. Mais nous ne devons pas l'oublier. C'est précisément à ces deux faiblesses de Feuerbach que s'attacha le vrai socialisme, entre guillemets, qui, à partir de 1844, s'étant répandue comme une épidémie sur l'Allemagne cultivée, entre guillemets, remplaça la connaissance scientifique par la phrase littéraire. L'émancipation du prolétariat au moyen de la transformation économique de la production, par la libération de l'humanité au moyen de l'amour, entre guillemets. Bref, se plongea dans cette littérature et ce pathos sentimental écœurant, dont M. Karl Grün fut le représentant le plus typique. Il ne faut pas oublier non plus que si l'école hegelienne était dissoute, la philosophie hegelienne n'avait pas encore été dépassée par la critique. Strauss et Bauer en avaient détaché chacun une de ses parties et la retournaient de façon polémique contre l'autre. Feuerbach brisa le système tout entier et le mit tout simplement de côté. Mais on ne vient pas à bout d'une philosophie en se contentant de la déclarer fausse. Et une œuvre aussi puissante que la philosophie de Hegel, qui a exercé une influence aussi considérable sur le développement intellectuel de la nation, on ne pouvait pas s'en débarrasser en l'ignorant purement et simplement. Il fallait la « supprimer » entre guillemets, dans son propre sens, c'est-à-dire en détruisant la forme au moyen de la critique, mais en sauvant le nouveau contenu acquis par elle. Nous verrons plus loin comment cela se fit. Mais, en attendant, la révolution de 1848 mit toute la philosophie de côté, avec la même désinvolture dont Feuerbach avait usé envers Hegel. Et par là, Feuerbach lui-même fut également relégué à l'arrière-plan.